La présence du Saint-Esprit est tellement bienfaisante. Tu peux afficher. La présence du Saint-Esprit est tellement bonne. Et il y a une exhortation, soyez remplis du Saint-Esprit. Soyons remplis du Saint-Esprit. C'est pas celui-ci, excuse. Soyons remplis du Saint-Esprit. Pierre et Jean étaient remplis du Saint-Esprit quand ils sont montés au temple. On est toujours dans les actes. On est toujours au début des actes, on avance lentement, mais c'est tellement important. C'est tellement important. Vous vous souvenez, Pierre et Jean, ils montent au temple. Ils croisent un boiteux qui demande l'aumône. Ils prient pour lui, il est guéri. Et qu'est-ce qui se passe? Ils se font emprisonner parce qu'ils ont prêché la résurrection au nom de Jésus-Christ. Et ils se trouvent devant un tribunal, devant le Sanhédrin. Et ils reçoivent une interdiction, celle de prêcher dans le nom de Jésus-Christ. Seulement, ils sont tellement remplis du Saint-Esprit, qu'est-ce que Pierre fait? Il répond à ces autorités qui pourraient les mener devant Pilate, qui pourraient les mener devant le procurateur romain pour les mettre à mort. Eh bien, à ces gens-là, Pierre dit, est-il juste devant Dieu de vous écouter, vous, plutôt que Dieu? Jugez-en vous-même. Pierre n'a pas peur, il est rempli du Saint-Esprit. Il décide de craindre Dieu et de ne pas craindre les hommes. Et ces hommes ne peuvent rien faire et ils sont relâchés, avec quand même une interdiction. Et qu'est-ce qui se passe? Pierre et Jean retrouvent les leurs, ils racontent tout ce qui s'est passé et ils se mettent tous ensemble à prier. Et cette prière, on l'a dans Acte 4 à partir du verset 23. Il prie ce Dieu qui est maître, Dieu qui a créé le ciel et la terre, la mer, tout ce qui s'y trouve. Ils sont en train de dire, c'est ce Dieu-là, c'est l'unique, celui dont le nom est au-dessus de tout nom que nous prions. Nous te prions, nous faisons référence à ton autorité. Et ils vont plus loin. Ensuite, ils rappellent à Dieu la parole, sa parole, le psaume 2 de David, où il dit, mais pourquoi cette agitation parmi les nations? Pourquoi ces préoccupations? Et il raconte ce que le psaume déjà a annoncé, que les nations allaient se mettre ensemble, que les dirigeants allaient se mettre ensemble contre le oint de l'Éternel, contre Jésus-Christ. Et ensuite, il rebondit sur leur actualité, pas seulement sur des prophéties. Et il parle de Hérode et de Ponce Pilate qui se sont ligués avec les nations et les peuples d'Israël contre ton saint serviteur Jésus. Ils sont en train d'actualiser les choses et en disant au Seigneur, mais là-dedans, dans ce qu'on est en train de vivre, sois attentif à leurs menaces. C'est la seule demande de protection qu'ils demandent. Sois attentif à leurs menaces. Mais après, il continue. Et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Déploie ta puissance pour qu'il se produise des guérisons, des signes miraculeux et des prodiges. Par le nom de ton saint serviteur Jésus-Christ. Ils s'abandonnent complètement devant Dieu. Ils s'oublient complètement, ce qu'ils veulent, c'est que ce soit le règne de Dieu qui avance. Quand ils eurent prié, l'endroit où ils étaient rassemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Et ma prédication commence ici ce matin. Tu peux enlever la dia. Acte 4, verset 32. La foule de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre. Mais ils mettaient tout en commun. Avec beaucoup de puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous. Il n'y avait aucun nécessiteux parmi eux. Tous ceux qui possédaient des champs ou des nations les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Il en faisait des distributions à chacun en fonction de ses besoins. Joseph, celui que les apôtres surnommaient Barnabas, ce qui signifie « fils d'encouragement », un lévite originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent, et le déposa au pied des apôtres. aux pieds des apôtres, c'est-à-dire les pieds, c'est en bas. Il faut se soumettre. Donc, c'est une expression au figuré. Mais ça veut dire que Barnabas, qui est quand même devenu un compagnon fidèle de Paul, c'est quelqu'un qui était rempli du Saint-Esprit, il reconnaît l'autorité qu'il y a dans Pierre et dans les apôtres. Il se soumet à leur autorité spirituelle. Il se soumet à Dieu qui est dans la, à Dieu par le Saint-Esprit qui est dans la personne de Pierre et des apôtres. Et il dépose le prix du champ. La communauté était tellement remplie du Saint-Esprit qu'ils ne sont plus qu'un cœur et une âme. On a ici une notion très forte de communauté. Ils sont tous ensemble, ils sont tellement remplis du Saint-Esprit, tout va bien, on est ensemble, on n'est qu'un cœur, on n'est qu'une âme, on met tout en commun et il n'y a pas d'indigent. Personne ne manque de quoi que ce soit. Il n'y a plus de statut social, c'est plus un problème. Ceux qui ont, ils donnent, ceux qui n'ont pas, ils reçoivent, et ensemble, on est unis pour annoncer la parole de Dieu avec efficacité. C'est vraiment une situation idyllique. Ça reflète le principe du royaume de Dieu. On n'est pas dans le domaine de la dîme, mais pourtant, on en a la mentalité. Et dans l'Ancien Testament, dans Deutéronome, je ne vais pas forcément tout vous lire, j'hésite, mais peut-être qu'il ne faut pas que je vous lise tout le passage, parce que sinon ce sera peut-être un petit peu long, mais vous pourrez aller voir dans Deutéronome 14, tu peux afficher la dia, Déborah, merci. À partir du verset 22, il est question de la dîme. Et il y a des principes par rapport à cette dîme qui sont écrits ou qu'on peut faire ressortir, qu'on peut comprendre. Il y a 4 principes. Il est noté, tu prélèveras la dîme de tout ce que produira ta semence, de ce que ton champ rapportera chaque année, etc. Et en fait, il faut aller manger cette dîme, les produits de cette dîme, à l'endroit où Dieu veut faire résider son nom. Et ça, c'est une première chose. La dîme, on l'apporte, ou on la mange, ou on la vit, là où Dieu veut faire résider son nom. Si tu n'y arrives pas, c'est la suivante. Magnifique. Et il y a marqué dans Deutéronome 14, afin que tu apprennes à craindre mon nom, afin que tu apprennes à craindre le nom de l'Éternel. La dîme, à la base, ce n'est pas une question d'argent. À la base, c'est apprendre à craindre le nom de l'Éternel. C'est un principe qui est en lien avec le fait de faire résider le nom de Dieu. Dieu veut faire résider son nom à un endroit, à l'église par exemple. Et le fait d'apporter notre dîme à cet endroit permet de faire résider son nom. Parce que tous ces principes, tous ces commandements vont pouvoir s'accomplir comme lui le veut. Par exemple, qu'il n'y ait pas d'indigents, qu'il n'y ait pas des gens dans le besoin. Par exemple, qu'on soit une communauté. Et ce qu'il note aussi dans ce passage, c'est de se réjouir devant Dieu avec ta famille, toi et ta famille, pas tout seul. La dîme, elle a une notion communautaire, de se réjouir en Dieu, en famille, en communauté. Et dans ce passage, il est encore question de pourvoir aux besoins du Lévite, c'est-à-dire les serviteurs de Dieu, et de pourvoir aux étrangers, aux orphelins, aux veuves, donc les personnes qui, au niveau de leur âge, de leurs conditions sociales, de leurs circonstances, ont des besoins, sont en fragilité ou n'ont pas la possibilité eux-mêmes de subvenir à leurs besoins. Voilà l'esprit de la dîme. Craindre, apprendre à craindre l'Éternel, là où il veut faire résider son nom. Quand on apporte quelque chose, c'est déjà pour dire, mais jusqu'où est-ce que je crains l'Éternel ? Pas dans le sens d'avoir peur, mais dans le sens de dire, je reconnais qu'il est ce Dieu créateur qui pourvoit à tout et que j'ai confiance en lui. Et que tout ce que j'ai me vient de lui. Alors, ce n'est pas un problème de donner. Mon cœur peut se donner parce que mon Dieu pourvoit à mes besoins. Dieu nous met au défi. Tu peux enlever la dia, merci. Voilà ce qu'il y avait dans l'Ancien Testament. Et dans ce texte ici, il n'y a aucune loi. Les apôtres, ils n'ont pas dit « amenez vos dîmes ». Ils n'ont rien demandé du tout. Il n'y a pas de loi, il n'y a pas d'ordonnance, ce n'est pas écrit. Mais c'est le Saint-Esprit qui a rempli chacun. Il les a tellement remplis qu'ils sont plus qu'un cœur, une âme, et ils apportent tout ce qu'ils ont, ils mettent tout en commun. c'est le fruit de l'esprit. C'est pas un plan d'action sociale. C'est le fruit de l'esprit qui fait que ce plan d'action, il se fait automatiquement, il se fait de façon naturelle sans qu'on y ait même pensé. Et Barnabas, eh bien, c'est l'exemple type de la personne remplie du Saint-Esprit qui donne sa vie pour Dieu et pour ses frères et sœurs. C'est magnifique. Et c'est ce qu'on devrait vivre au quotidien. Cependant, mais dans certaines versions, mais, et c'est là que j'avais pas envie de prêcher sur Ananias et Saphira. Vous connaissez l'histoire. Je me suis dit, je peux pas aller plus loin dans ce livre des Actes depuis qu'on a commencé. Je peux pas sauter ce passage, mais j'ai pas envie. J'aime pas ce passage. Ou alors, je ne l'aimais pas jusqu'à ce que j'en ai compris l'essence. Mais, cependant, un homme appelé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et garda une partie du prix en accord avec sa femme. Il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu aies menti au Saint-Esprit et gardé une partie du prix du champ? S'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après l'avoir vendu, n'avais-tu pas le droit de disposer du prix? Comment as-tu pu former dans ton cœur un projet pareil? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Quand Ananias entendit ces paroles, il tomba et expira. Une grande crainte s'empara de tous ceux qui l'apprirent. Les jeunes gens se levèrent pour envelopper le corps, puis ils l'emportèrent pour l'enterrer. Imaginez un peu la scène. Imaginez le truc. Toute la communauté est remplie du Saint-Esprit. Il y a quelqu'un qui vend un champ, qui amène l'argent. Tout le monde amène les choses. On partage, ça roule, ça va bien. On vient tous ici à l'église, ça roule. Il y a ceux qui doivent distribuer la Sainte Cène qui le font. Ensuite, on passe l'offrande. Alors, c'est vrai, maintenant, avec le Covid, on passe plus les paniers. D'ailleurs, je sais même plus où ils sont. Mais imaginez comme c'était avant. Ceux qui sont d'office, vous avez souvent Denis, Monique, il peut y avoir Christiana, par exemple, Nathalie, vous passez avec les paniers, et vous êtes là, et quand le panier arrive vers vous, eh ben, vous mettez ce que vous avez prévu. Et à ce moment-là, Denis, rempli du Saint-Esprit, se plante devant vous, et il vous dit, « Mon ami, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Pourquoi est-ce que tu triches ?» Vous imaginez un peu la scène devant tout le monde? Alors que vous, peut-être que vous étiez à la maison, vous avez fait vos calculs. Je reçois tant, le 10% c'est tant. Brut ou net? Vous continuez votre calcul, vous décidez, et puis vous mettez cette somme, et tout à coup quelqu'un vous dit, mais tu triches, tu mens. Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ananias a préparé, a vendu un champ, il en a reçu une somme. Et il en retient une partie, et il amène le reste aux pieds des apôtres. Jusque-là, moi je ne vois pas de problème. Mais en allant creuser un petit peu, ça dépend des traductions que vous avez en français. Ici, dans cette version, c'est Bible Second 21, il y a marqué « il garda une partie ». Mais dans certaines versions, dans Louis II, il y a marqué « il retint une partie ». Et là, on est déjà un peu plus juste au niveau du terme qui est utilisé. Mais la vraie traduction, c'est « il détourna une partie ». Ce terme veut dire « détourner », porter préjudice en sa propre faveur. Il y a une sorte de délit. Il y a quelque chose de délictueux, il y a quelque chose de faux, quelque chose de tordu. C'est dans le cœur, c'est pas la somme, c'est pas un problème la somme. C'est dans le cœur d'Ananias qu'il y a quelque chose qui n'est pas allé. Il a détourné une partie. Ça veut dire qu'il a caché. Parce que quand on détourne quelque chose, on le fait dans le secret. Ananias a fait quelque chose dans le secret. Il y a quelque chose qui n'était pas correct. Il n'était pas dans la vérité. Et qu'est-ce qu'il fait? Il apporte le reste aux pieds des apôtres. Et aux pieds des apôtres, on l'a dit, ça veut dire « je reconnais ton autorité ». Mais je reconnais surtout la présence de Dieu en toi qui fait que tu as l'autorité de Dieu. Donc je reconnais Dieu. Et là, Ananias, il va déposer ça aux pieds des apôtres, mais en fait, dans cette somme, il y a un mensonge, il y a un secret. Voilà ce qui se passe, voilà ce qui cloche. Et c'est pour ça que Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Parce qu'au début, tout le monde n'était qu'un cœur et une âme. Ce mot cœur, il est tellement important. C'est le Saint-Esprit, tout le monde était rempli du Saint-Esprit dans son cœur. Mais quand tu es rempli du Saint-Esprit, ton adoration, le fait de donner à Dieu, c'est en vérité, c'est en esprit, en vérité. Et ça, Jésus, il va le rappeler à la femme samaritaine dans Jean 4, les versets 23-24. Il va dire, mais les adorateurs que Dieu cherche, c'est des adorateurs qu'il adore en esprit, qui sont remplis du Saint-Esprit et en vérité. C'est pas quelqu'un qui a le cœur rempli de Satan, qui s'est fait séduire et qui ment et qui donne juste une partie. C'est pas la partie le problème, c'est le mensonge. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce que tu caches? Et c'est pour ça qu'Ananias a menti au Saint-Esprit. Il s'est menti à lui-même, mais en fait c'est à Dieu. Il a cru que Dieu ne le voyait pas. Alors Pierre continue. Pour qu'Ananias y saisisse bien. S'il n'avait pas été vendu, ce champ, ne te restait-il pas? Et après l'avoir vendu, n'avais-tu pas le droit de disposer du prix? Il n'y avait aucune loi. C'était un élan de cœur. C'était l'élan du Saint-Esprit qui a provoqué cette chose que Barnabas, il a vendu un champ puis qu'il a tout donné. Mais peut-être qu'il en avait d'autres, des champs. Peut-être que Barnabas, il avait plusieurs propriétés, on n'en sait rien. Mais pour ce champ-là, il a eu à cœur de le donner, il l'a fait. C'est tout. Eh bien, pour Ananias, c'était pareil. On ne sait pas combien il avait de champs ou de maisons ou de quoi que ce soit. Peut-être que la partie qu'il a gardée pour lui, c'était pour payer les études de son fils, partir plus loin en vacances, ou bien pour construire une nouvelle aile à sa maison, ou bien juste pour préparer sa retraite. On n'en sait rien, mais il avait le droit. Il avait le droit. Le problème, c'est d'avoir caché quelque chose, c'est d'avoir triché. Et pourquoi il a triché? Parce qu'il y a du m'as-tu vu. Barnabas a tout déposé, et ça s'est vu. Et ça touche les cœurs, et ça bénit toute une communauté. Alors Ananias et Saphira, ils se disent, nous aussi, on va les donner. Regardez comme on est généreux. On a vendu un champ et regardez, on donne son prix. Il cherche le paraître. Il cherche la faveur des hommes plutôt que la faveur de Dieu. Comprenez? Comprenez ce que c'est que de mentir au Saint-Esprit. Ils ont la crainte des hommes et pas la crainte de Dieu. Comment as-tu pu former dans ton cœur un projet pareil? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Quand Ananias entendit ces paroles, il tomba et expira. Une grande crainte s'empara de tous ceux qui l'apprirent. Les jeunes gens se levèrent pour envelopper le corps, puis ils l'emportèrent pour l'enterrer. C'est quand même dur. C'est quand même dur. Comment c'est possible? Que Ananias, comme ça, au pied des apôtres, paf, il s'effondre, il est mort, on l'emmène, enterré, poutsé, fini, plus d'Ananias. Non mais vous imaginez un peu comme c'est violent? Mais comment est-ce que c'est possible? Est-ce que Dieu est si dur que ça? Ça vous est arrivé combien de fois d'arriver ici et puis de mettre votre dîme, qui est peut-être pas tout à fait une dîme, et d'avoir tellement réfléchi, mais net ou brut, ou allez, je mets quand même juste ça pour autre chose, puis ça, et puis les calculs, puis vous arrivez ici, puis vous mettez dans le panier, puis vous savez pas trop. Ça vous est jamais arrivé? Bien de vous dire, ok, je donne, mais là, ce mois-ci, c'est dur. C'est dur, mon cœur, il est partagé. Ça vous est jamais arrivé? Je suis peut-être la seule à qui c'est arrivé. parce que mon cœur aussi, il a aussi toutes ses facettes tortueuses, bien sûr. On a tous ces combats en nous. Mais moi, ça m'est jamais arrivé devant les autorités spirituelles de l'Église de me retrouver raide morte. Alors pourquoi Ananias? Je pense que Dieu déjà voulait montrer un chemin. Mais il y a encore de nouveau un écho à l'Ancien Testament. Vous vous souvenez dans Lévitique 10? Lévitique 10, les versets 1 à 5. Les fils du grand sacrificateur, du premier grand sacrificateur, Aaron. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brûle-parfum, y mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qu'il ne leur avait pas ordonné. Alors un feu sortit de devant l'Éternel et les brûla. Ils moururent devant l'Éternel. Et juste un peu plus loin, approchez-vous, emportez vos frères loin du sanctuaire, à l'extérieur du camp. Ils s'approchèrent et les emportèrent dans leur tunique à l'extérieur du camp, comme Moïse l'avait dit. Et il y a plusieurs passages, toujours dans les Deutéronomes, qui nous dit « Tu enlèveras le mal du milieu de toi. » Tu enlèveras le mal du milieu de toi. Ananias a été enlevé de l'Église. Ananias a apporté quelque chose d'étranger, quelque chose qui a souillé l'Église. Et il en a été enlevé. Le problème, c'est que Ananias n'était pas tout seul. Et dans l'histoire, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce bien à ce prix que vous avez vendu le champ ?»« Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment avez-vous pu vous mettre d'accord pour provoquer l'Esprit du Seigneur? Ceux qui ont enterré ton mari sont à la porte et ils vont t'emporter toi aussi. » Elle tomba immédiatement aux pieds de l'apôtre et expira. Quand les jeunes gens rentrèrent, ils la trouvèrent morte et l'emportèrent pour l'enterrer à côté de son mari. Imaginez. Imaginez pas un pour rattraper l'autre. Pourtant, elle avait encore une possibilité, Saphira. On dirait même que Pierre lui a tendu une perche. Il lui a posé cette question. Est-ce bien à ce prix-là que vous avez vendu le champ? Si vous pensez à la mentalité qu'il y avait, quand les gens étaient remplis du Saint-Esprit, ils apportaient ce qu'ils avaient à donner, mais certainement que personne ne leur demandait des comptes. Quand Barnabas a apporté le prix de son champ, vous croyez que Pierre lui a dit « Mais en fait, tu l'as vendu combien ton champ ?» C'était plutôt « Waouh, les gens qui sont généreux et qui donnent. Seigneur, donne-nous la sagesse d'utiliser cet argent. » C'était plutôt ça la mentalité. Et là, à Saphira, il lui dit « Est-ce bien ce prix-là » Il est en train de lui tendre une perche. Il est en train de lui dire « Mais t'as encore la possibilité de te repentir. » Alors vous allez me dire, oui, mais Saphira, elle était soumise à son mari, parce qu'on doit être soumise à son mari. C'est quoi la soumission? Et c'est quoi l'autorité? Une autorité, selon le cœur de Dieu, c'est une protection. Un mari qui est l'autorité d'une femme, c'est sa protection, parce que c'est le même modèle que Christ et l'Église. Et Christ, il est notre protection. Donc se soumettre, c'est se mettre sous la protection. Mais dans ce cas de figure, Ananias n'a pas vraiment protégé sa femme parce qu'ils se sont accordés. Et si vous reprenez ce que Pierre et Jean ont dit au Sanhédrin, c'était leur autorité politique, sociale, juridique, etc. Mais ils leur ont dit, jugez-en vous-même. Est-ce qu'il vaut mieux vous écouter vous ou écouter Dieu? Ils ont choisi Dieu. Si ton conjoint te pousse à faire quelque chose qui va contre Dieu, tu ne pèches pas en lui disant, je ne suis pas d'accord. Je me soumets à Dieu. Dans le psaume 1, il nous a dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » C'est tellement important. Ceux qui ne sont pas mariés, mais choisissez bien votre conjoint. Ceux qui sont mariés, reprenez-vous l'un l'autre quand c'est nécessaire. Dans vos amitiés, regardez qui a des influences sur vous et donnez l'autorité à Dieu. Ça ne veut pas dire couper toutes les amitiés, mais qui est votre autorité? Soyez vigilants. Ne vous accordez pas pour faire le mal. Saphira avait encore la possibilité de dire « Eh bien non, en fait ce qu'on a fait c'est faux. Le champ on l'a pas vendu à ce prix-là. » On ne sait pas ce qui se serait passé, mais elle pouvait encore demander pardon. Et elle ne l'a pas fait. Ananias et Saphira, ils se sont accordés ensemble. Mais Pierre, rempli du Saint-Esprit, il a vu tout ça. Il a vu ça dans leur cœur. Comment est-ce possible? Jésus, il en a parlé de ça. Luc 12. Luc 12, c'est un des versets préférés de mon mari, d'ailleurs. En tout cas, c'en est un qu'il a ressorti tellement souvent que pour finir, je le sors aussi. Et moi, ça m'aide dans la vie de tous les jours. C'est Jésus qui parle. Luc 12. Si je vous lis Luc 10, ça ne va pas aller. Luc 12. Jésus, il dit aux gens de se méfier des pharisiens qui est l'hypocrisie. Et c'est un peu l'esprit d'Ananias. Il dit, il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans l'obscurité sera entendu en plein jour, et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera proclamé sur les toits. Pierre n'était pas dans la chambre d'Ananias et Saphira quand ils ont décidé de tricher, de mentir. Mais quand Ananias et Saphira étaient dans leur chambre pour décider de tordre leur cœur puis de se dire « on va faire comme ça, on va tricher, on va bien se montrer, mais en fait, notre cœur n'y est pas », le Saint-Esprit était là. Rien n'est caché devant Dieu. Il est dans les chambres. Tout ce qui se dit à l'oreille, il l'entend. Il voit ce qu'il y a dans les cœurs. Et qu'est-ce qu'il fait? Il le révèle à ses serviteurs qui sont remplis du Saint-Esprit. Il le révèle à ceux à qui il peut le révéler, à ceux qui sauront quoi en faire. Pas pour aller faire du mal, mais pour rétablir la vérité. Dieu veut être adoré en esprit et en vérité. Alors Pierre, rempli de l'Esprit, sûrement qu'il n'a pas eu la compréhension de qu'est-ce qui s'est passé dans la chambre. Mais il a vu qu'il n'y avait pas la vérité dans le cœur d'Ananias et dans le cœur de Saphira. Et c'est ce qui lui a donné l'audace, la force, la puissance, l'onction pour poser ces questions-là et les remettre devant leurs responsabilités. Elle tomba immédiatement aux pieds de l'apôtre et expira. Quand les jeunes gens rentrèrent, ils la trouvèrent morte et l'emportèrent pour l'enterrer à côté de son mari. Elle aussi, elle tombe aux pieds des apôtres, elle expire et elle est sortie hors du camp, hors de la communauté. Est-ce que ça ne vous rappelle pas une autre histoire? Est-ce que ça ne vous rappelle pas une autre situation idyllique? Un jardin où il y a tout, tout en abondance. Une communion entre un homme et une femme et Dieu. Une communion parfaite. Tout est idyllique. Tout est beau, tout va bien. Et à un moment donné, à cause du diable, à cause de Satan, l'homme et la femme acceptent que leur cœur soit rempli. Ils se concertent les deux, ils sont ensemble. Vous pourrez aller relire le texte. Quand la femme donne du fruit à son mari, c'est parce qu'il est auprès d'elle. Elle en donna à son mari qui était auprès d'elle. Ils sont ensemble. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Et pourquoi est-ce qu'ils font ça? Pour être comme Dieu. Ils n'ont plus voulu se soumettre à Dieu. Mais ils ont voulu être comme Dieu. Ils ont voulu paraître. Ils ont voulu être au-dessus, être supérieur. C'est exactement le même esprit qu'il y a eu dans Ananias et Saphira. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite quand ils ont mangé de ce fruit? Quand Satan a rempli leur cœur, ils sont entrés en mort spirituelle. Ils n'avaient plus le Saint-Esprit dans leur cœur. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Le mari a été interrogé. Ananias a été interrogé. Ève, la femme, a été interrogée. Saphira a été interrogée. Et qu'est-ce qui s'est passé? Adam et Ève, ils ont été chassés du jardin. Et jusqu'à aujourd'hui, ils ne l'ont encore pas retrouvé. Ananias et Saphira ont été chassés de l'église. Parce que la problématique ici, c'est une problématique de cœur. C'est une problématique de communauté. Ananias et Saphira, ils ont fait un délit de communauté. Adam et Ève, ils ont fait entrer le péché dans l'humanité. Ananias et Saphira, ils ont fait entrer le péché dans l'Église. L'esprit individualiste. Mes besoins, mes désirs, ma prestance, mon orgueil, toutes ces choses-là. Et c'est pour ça que, comme signal fort, ils ont été enlevés de l'Église. Une grande crainte s'empara de toute l'Église et de tous ceux qui apprirent ces événements. Cette grande crainte, elle revient plusieurs fois dans ce passage. Et si vous vous souvenez les principes de la dîme, c'est pour apprendre à craindre l'Éternel. Une grande crainte a saisi tout le monde. Et cette grande crainte, elle devrait nous saisir aussi. Protégeons l'Église. En fait, nous avons la responsabilité de protéger l'Église. Déjà par nous-mêmes, comment est-ce que je viens à l'Église? Comment est-ce que je vis l'Église? Comment est-ce que je remplis les responsabilités que j'ai reçues? Comment j'honore ces responsabilités? Bien sûr, il y a l'argent. Ça, c'est une part. Mais il n'y a pas seulement l'argent. Est-ce que je viens à l'Église dans la crainte de Dieu, dans mes attitudes, dans mon cœur, dans mes paroles? Est-ce que j'essaye de me mettre en avant par rapport à ce que j'ai reçu? Ou est-ce que je cherche à faire en sorte que la communauté soit toujours unie, soit ensemble, soit soudée, et que Dieu peut faire résider son nom au milieu de nous? Il y a vraiment une forte exhortation. C'est un texte qui est difficile. On ne va pas tomber raide mort comme Ananias et Saphira. Ça, c'était l'exemple. Mais après, ça a surtout montré l'Église, tant que Jésus revient, enfin, tant qu'il n'est encore pas revenu, l'Église n'est pas parfaite. Il ne faut pas qu'on se fasse d'illusions. Il y a eu une brèche qui a été faite. Mais le Saint-Esprit est toujours là. Et nous avons le choix d'être remplis du Saint-Esprit. Dans les temps troublés que nous vivons, c'est tellement important de le comprendre. Moi, j'ai eu plusieurs conversations tous ces derniers temps par rapport à ce qui est en train de se passer au niveau de notre actualité, en particulier en France. Mon cœur a pleuré pour la France, mon cœur est déchiré pour la France, mais je sais que ça vient aussi chez nous. Et je le répète, comme je vous l'ai dit la semaine passée, c'est pas une question de vaccin, pro-vaccin, contre-vaccin. Ça, c'est de l'instrumentalisation. Le peuple que nous sommes, les Français en ce moment énormément, mais ailleurs aussi, les citoyens sont instrumentalisés pour qu'il y ait des pros et des anti, pour qu'il y ait des pour qu'il y ait des contre, pour qu'il y ait deux camps qui s'affrontent, comme ça ceux qui sont plus hauts, ils ont la voie libre pour faire ce qu'ils ont envie de faire. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a des bonnes raisons de se faire vacciner, il y a des bonnes raisons de ne pas le faire. C'est pas ça le problème, c'est une mentalité qu'il y a derrière. Il y a une mentalité qui est dangereuse, il y a une mentalité de contrôle. Il y a une mentalité de ségrégation. Il y a une mentalité qui permet à un système de se mettre en place. Il y a des choses, il faut qu'on ait les yeux ouverts, parce qu'il y a aussi des choses qu'on peut comprendre faux. Bien sûr, tout le monde chez les chrétiens a cette idée, mais alors la marque de la bête, est-ce qu'elle est dans le vaccin? Personnellement, je ne pense pas. Je ne sais pas comment est-ce qu'elle va se matérialiser, mais son principe, son essence, son esprit, sa mentalité, elle plane. Elle plane dans tout ça. Il y a des choses qui poussent pour y arriver. Alors, est-ce que ce sera ça? Est-ce qu'il va se passer encore d'autres choses, d'autres événements, d'autres machins? Moi, je ne sais pas. Je ne veux pas vous dire des choses que je ne sais pas. Je vois juste des pièces de l'échiquier qui sont en train de s'organiser. Et je vois des étaux qui se resserrent de plus en plus. Alors, qu'est-ce qu'on va faire en tant qu'Église? Est-ce qu'on va aussi se faire instrumentaliser et se fractionner? Dans l'Église, nous n'avons pas tous les mêmes avis, nous n'avons pas tous les mêmes compréhensions. Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est de rester un seul cœur, une seule âme, soumis au Saint-Esprit, qu'on fasse selon les convictions que nous recevons, qu'on puisse s'entraider. Et même si je me suis fait vacciner, puis qu'à un moment donné, mon frère, ma sœur, qui n'a pas voulu le faire, ne peut plus avoir accès aux centres commerciaux, eh bien que j'ai un cœur assez ouvert pour lui donner à manger. Vous savez, ça fait quelques années déjà qu'il y a énormément de chrétiens, pas seulement des chrétiens, mais énormément de chrétiens, je vous en avais un tout petit peu parlé avant que tout ça se mette en place, qui ont planté des jardins. Il y en a énormément qui ont planté des jardins, de la permaculture. La permaculture, c'est une façon de faire pour qu'il y ait de la résilience, pour que les cultures puissent s'entraider, qu'elles soient abondantes, pour que s'il y a de la grêle, ça va écraser certaines plantes, mais pas d'autres. Que s'il y a de la pluie, ça va en noyer certaines, mais pas d'autres. Qu'il y ait toujours à manger, qu'il y ait toujours une résilience, que chacun apprenne à faire pousser quelque chose dans son jardin. Parce qu'à un moment donné, on risque de manquer. Alors tu peux faire ton jardin pour toi-même. Mais l'esprit de ceux qui sont en train de mettre ça en place, ce qu'ils se sont dit avec la première crise Covid, c'est « Waouh, en Europe, en une semaine, s'il n'y a plus de pétrole, s'il n'y a plus de transport, en une semaine, il n'y a plus de nourriture. » Ça, c'est le constat qu'ils ont fait. Ils se sont dit « Waouh, là, ça urge. » Mais maintenant, ça va beaucoup plus loin. Si on ferme, si on coupe les vivres à une partie de la population qui ne pense pas pareil, est-ce que nous, notre cœur, même si on ne pense pas pareil, est-ce que notre cœur sera prêt à remplir nos greniers pour aller donner à ceux qui n'ont pas? Moi, je crois que c'est ça qu'on doit se dire. Peu importe le pour, le contre, c'est pas ça le problème. Soyons unis. Aimons. Aimons même ceux qui pensent autrement. Aimons nos ennemis. C'est ce que la parole nous demande. Remplissons nos greniers, pas pour nos propres besoins. Ne soyons pas des Ananias et Saphira à garder pour nous. Mais apprenons, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour mettre en commun? Qu'est-ce qu'on peut faire quand on voit ce qui est en train de se passer? On n'en sait rien où ça va nous mener. On n'en sait rien. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ne nous trompons pas d'ennemis, comme je l'ai dit la dernière fois. Ne nous trompons pas d'ennemis. Soyons remplis du Saint-Esprit. Faisons vivre l'Église, protégeons l'Église, protégeons nos vies, protégeons nos familles, en étant remplis du Saint-Esprit. Une grande crainte s'empara de toute l'Église et de tous ceux qui apprirent ces événements. Seigneur, merci pour ta parole. Père éternel, Jésus-Christ, Saint-Esprit, je reconnais que tu es un, que tu es l'autorité au-dessus de toute autorité, le nom au-dessus de tout nom. Tu es créateur, tu as tout créé par ta parole, par ta volonté. C'est toi qui tiens le cours de l'histoire dans tes mains, tu sais exactement ce qui est en train d'arriver. Tu connais toutes choses et tu connais surtout nos cœurs. Tu connais nos fragilités. Tu sais où on en est chacun d'entre nous. Seigneur, ta parole est dure et en même temps, elle est libératrice. Je te demande de déverser dans nos cœurs pour nous donner les bonnes compréhensions. Je refuse tout esprit de culpabilité. Je te demande simplement de nous montrer comment tu veux nous remplir, Saint-Esprit. S'il y a des endroits dans notre cœur qui te résistent encore, des peurs que l'on a, des angoisses, des difficultés, des circonstances tellement, tellement précaires, tellement fragiles, je te demande de venir te déverser dans ces endroits-là pour que tu puisses montrer comment tu pourvois aux besoins de ceux qui sont dans la nécessité, dans la fragilité. Je te demande de nous montrer comment disposer nos cœurs pour être remplis de toi, pour t'adorer en esprit, en vérité. Apporter là où tu veux faire résider ton nom, apporter notre offrande, l'offrande de nos vies, que nous soyons capables de faire résider ton nom, de nous réjouir ensemble devant ta face. Donne-nous cette compréhension, cette révélation de la communauté selon ton cœur. Étends ta main sur notre communauté, étends ta main sur les églises de cette région, étends ta main sur l'Église universelle, sur les chrétiens qui sont déjà persécutés, certains dans une mesure qu'on ne peut même pas imaginer. Prépare-nous à ouvrir encore plus nos cœurs, nos greniers. Donne-nous les stratégies. Montre-nous pour cette Église ici. Qu'est-ce qu'on doit faire? Comment se préparer à l'avenir? Comment faire? Inspire-nous. Aide-nous à nous mettre ensemble. Que nous soyons un devant toi. Comme toi, Jésus, tu es un avec le Père. Je bénis ta parole, Seigneur. Merci pour ta parole. Et merci parce que tu bénis nos cœurs. À toi revient toute la gloire. Amen.